H.G. Wells, Le pays des aveugles, deuxième partie. Le chant des oiseaux dans les arbres l'éveilla. Il s'installa sur son séant et chercha à se reconnaître. Il se trouvait sur une petite plateforme triangulaire, au pied d'un vaste précipice qui coupait obliquement le ravin par lequel sa boule de neige l'avait amené. Devant lui, un autre mur de roc se dressait contre le ciel. La gorge, entre ces deux murailles, courait de l'est à l'ouest. Les rayons du soleil levant la caressaient toute et s'en allaient illuminer l'amoncellement de roches qui fermait le défilé. Du côté libre s'ouvrait un précipice également abrupt, mais dans une crevasse, il découvrit une sorte de cheminée aux parois ruisselantes de neige fondante et par laquelle, en bravant tous les risques, on pouvait se hasarder. La descente fut plus aisée qu'il ne s'y attendait et il parvint ainsi sur une seconde plateforme désolée. Puis, après une escalade qui n'offrait rien de périlleux, il atteignit une pente rapide garnie d'arbres. Après s'être orienté, il se tourna vers l'extrémité la plus élevée de la gorge, car il observa qu'elle débouchait sur de vertes prairies, parmi lesquelles il apercevait très distinctement un groupe de huttes de forme inaccoutumée. Par instant, il n'avançait pas plus que s'il eût essayé de gravir un mur à pic, et au bout de peu de temps, le soleil cessa d'éclairer la gorge, les oiseaux se turent, l'air devint glacial et l'obscurité complète. Mais la vallée lointaine, avec ses maisons, n'en paraissait que plus attrayante. Bientôt il arriva sur une série de talus, et parmi les rochers, il avisa, car il était observateur, une fougère inconnue qui semblait tendre hors des crevasses d'avides mains vertes. Il en arracha une ou deux feuilles qu'il mâcha et se sentit quelque peu réconforté. Vers midi, il avait enfin gagné le rebord supérieur de la gorge et sous ses yeux s'étendait la plaine ensoleillée. Épuisé de fatigue et les membres roidis, il s'assit à l'ombre, tout près d'une source, emplit sa gourde d'eau limpide et fraîche et en but d'un trait le contenu. Il prolongea sa halte, éprouvant un grand besoin de repos avant de se mettre en route vers les maisons. Ces maisons avaient une apparence fort étrange et, à vrai dire, l'aspect de la vallée tout entière devenait, à mesure que ses regards la parcouraient, de plus en plus insolite. Sa surface était occupée par des prairies grasses, luxuriantes, émaillées de fleurs et irriguées avec un soin extraordinaire qui témoignait d'un entretien systématique. À mi-côte, entourant la vallée, se dressait un mur au pied duquel était creusé un canal d'où s'échappaient les ruisselets qui alimentaient les conduites des prairies. Sur les pentes extérieures, des troupeaux de lamas broutaient l'herbe rare. De place en place, contre la muraille, des appentis s'appuyaient, apparemment des abris pour les animaux. Les rigoles aboutissaient au centre de la vallée, dans un large chenal qui était clos sur chaque rive par un parapet à hauteur de poitrine. Ces canalisations et de nombreux sentiers pavés de pierres blanches et noires et bordés par un curieux petit trottoir s'entrecroisaient d'une façon très régulière et donnaient à ce vallon un caractère singulièrement urbain. Les maisons ne rappelaient en rien l'agglomération désordonnée des villages qu'ils connaissaient dans les Andes. Elles étaient bâties en rang continu de chaque côté d'une rue centrale dont la propreté surprenait. Ici et là, elles étaient percées d'une porte, mais aucune fenêtre, aucune baie ne rompait la monotonie de leur façade aux couleurs disparates. Des teintes bizarres les ornaient en un pêle-mêle étonnant, elles étaient enduites d'une sorte de plâtre, parfois gris, parfois brun et même ardoise ou noirâtre. C'est la vue de ce revêtement fantasque qui amena tout d'abord le mot « aveugle » dans les pensées du guide. « Le brave homme qui a fait cet ouvrage, se dit-il, devait être aveugle comme une taupe. » Il descendit une pente abrupte et s'arrêta à une certaine distance du mur d'enceinte, près de l'endroit où le canal rejetait le surplus de ses eaux, en une frêle et tremblante cascade qui allait se perdre dans les profondeurs de la gorge. Il apercevait maintenant, dans un coin éloigné de la vallée, des hommes et des femmes qui semblaient faire la sieste sur des tas de foin. À l'entrée du village, des enfants étaient couchés sur le gazon, et non loin de l'endroit d'où Nunez les observait, trois hommes chargés de seaux suspendus à une sorte de joug qui leur emboîtait les épaules, suivaient un sentier partant de la muraille de clôture et se dirigeaient vers le groupe d'habitation. Ces hommes étaient accoutrés de vêtements en poils de lama, de bottes et de ceintures de cuir, et coiffés de casquettes de drap avec un rabat pour la nuque et les oreilles. Ils se suivaient à la file, avançant lentement et bâillant comme des gens qui n'ont pas dormi la nuit. Il y avait dans leur aspect quelque chose de si rassurant, de si prospère et de si respectable, qu'après un moment d'hésitation, Nunez se mit aussi en évidence que possible sur son rocher et lança de toutes ses forces un appel qui retentit jusqu'au bout de la vallée. Les trois hommes s'arrêtèrent, remuant la tête comme s'ils regardaient autour d'eux. Ils tournaient leur visage en tous sens, et Nunez gesticulait tant qu'il pouvait. Mais, malgré cette folle mimique, ils ne paraissaient pas le voir, et au bout d'un instant, se plaçant dans la direction des montagnes de l'ouest, ils répondirent par des cris. Nunez s'égosilla de nouveau, et pour la seconde fois, comme il s'était repris à gesticuler sans effet, le mot « aveugle » lui trotta de nouveau par l'esprit. « Ces idiots doivent être aveugles, » se dit-il. Enfin, quand après bien des cris et des accès d'irritation, Nunez eut franchi le canal sur un petit pont aboutissant à une porte percée dans la muraille et qu'il eut rejoint les trois hommes, il constata qu'ils étaient aveugles en effet. Il eut la certitude alors que c'était là le pays des aveugles dont parlait la légende. Cette conviction s'était aussitôt emparée de lui, en même temps qu'il éprouvait une joie irréfléchie à la perspective d'une aventure peu commune et assez enviable. Les trois hommes, debout côte à côte, ne le regardaient pas venir, mais ils tendaient l'oreille dans sa direction et semblaient fort attentifs au bruit inaccoutumé de ses pas. Ils se pressaient l'un contre l'autre comme des gens qui ont peur, et Nunez observait leurs paupières closes et renfoncées sous lesquelles il ne devait plus y avoir de globe oculaire. Leur visage exprimait l'inquiétude. Un homme, c'est un homme. Un homme ou un esprit qui descend par les rochers, proféra l'un des aveugles dans un espagnol à peine reconnaissable. Nunez avançait du pas confiant de l'adolescent qui entre dans la vie. Toutes les vieilles histoires de la vallée ensevelie et du pays des aveugles lui étaient revenues en mémoire, et comme un refrain dans ses pensées, il se répétait le proverbe « Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois ». Fort civilement, il les salua en les dévisageant avec curiosité. « D'où vient-il, frère Pedro ?» demanda l'un des hommes. « Il descend par les rochers. »« Je viens de par-delà les montagnes, » répondit Nunez. Je viens de la contrée, tout là-bas, où les hommes voient. J'arrive de Bogota, où il y a des centaines de mille habitants. Et j'ai franchi la montagne qui cache à la vue le pays et la ville.
« La vue ?» murmura Pedro. « La vue ? Il vient des rochers, » dit le second aveugle.
L'étoffe de leurs vêtements était curieusement façonnée, avec des coutures de modèles divers. Les mains tendues, ils firent vers lui des gestes simultanés qui l'effrayèrent. Il recula devant ses doigts avides. « Avancez ici !» ordonna le troisième aveugle en suivant ce mouvement de recul. Ils empoignèrent l'étranger et le tâtèrent des pieds à la tête sans desserrer les dents avant que leur examen fût terminé. « Attention !» avertit Nunez au moment où un doigt appuyait fortement sur son œil. Sans doute, cet organe, avec ses paupières mobiles, devait leur paraître en lui une chose anormale. Ils le palpèrent de nouveau. « Singulière créature, Coréa !» conclut celui qui s'appelait Pedro. « Comme ses cheveux sont rudes, on dirait du poil de lama. Il est aussi rugueux que les rochers qui l'ont enfanté. Peut-être qu'il s'affinera, » répondit Coréa, explorant d'une main douce et un peu moite le menton non rasé de Nunez qui se débattait entre leurs poignes tenaces. « Attention » fit-il encore. « Il parle, » dit le troisième aveugle. « Certainement, c'est un homme. »« grommela Pedro, palpant l'étoffe de la veste de Nunez. « Alors vous voilà venu au monde. »« Hors du monde, » rectifia le guide, « par-dessus les montagnes et les glaciers, en escaladant les sommets, là-haut, à mi-chemin du soleil. »« hors du grand, du vaste monde qui descend jusqu'à la mer, après 12 jours de marche. C'est à peine s'il l'écoutait. Nos pères nous ont appris que les hommes peuvent être créés par les forces de la nature, disait Coréa. La chaleur, l'humidité, la corruption. Menons-le aux anciens, suggéra Pedro. Crions d'abord, conseilla Coréa, pour que les enfants ne s'alarment pas. C'est un événement peu commun. Ils poussèrent en effet quelques cris, puis Pedro se mit en marche en prenant Núñez par la main pour le mener vers les maisons. Mais Núñez retira sa main. « J'y vois, » dit-il. « Vois ?» demanda Coréa, perplexe. « Oui, j'y vois, » répéta Núñez, en se tournant vers lui et en trébuchant contre le seau de Pedro. « Ses sens sont encore imparfaits, » remarqua le troisième aveugle. « Il trébuche et profère des mots dénués de signification. Conduisez-le par la main. »« Comme vous voudrez, » consentit Núñez, et il se laissa mener en riant de bon cœur. Il devenait évident qu'ils ignoraient ce qu'était la vue. Bah, en temps voulu, il le leur apprendrait. Des cris parvinrent à ses oreilles, et il aperçut des gens qui se rassemblaient dans la rue principale. Ce premier contact avec la population du pays des aveugles mit ses nerfs et sa patience à une épreuve plus rude qu'il ne l'avait supposée. Le village semblait plus important à mesure qu'il en approchait, et les revêtements des murs se précisaient dans toute leur étrangeté. Une foule d'enfants, d'hommes et de femmes l'entourèrent, le palpèrent avec des mains douces et sensibles, le flairant et écoutant chaque mot qu'il articulait. Il remarqua avec plaisir que, pour la plupart, les femmes avaient des visages agréables, malgré leurs paupières closes et leurs orbites vides. Les enfants et les jeunes filles, toutefois, se tenaient à l'écart, comme effrayés, et par le fait, sa voix avait des accents grossiers et rauques, comparés aux leurs, tous agréables et chantants. Le contact de toutes ses mains était intolérable. Ses trois guides restaient à ses côtés, avec le sentiment de leur responsabilité de propriétaire, et ils répétaient à tout moment « Un homme sauvage, venu des roches. »« De Bogota, » fit Núñez. « Bogota, par-delà la crête des montagnes. »« Un homme sauvage qui se sert de mots sauvages, » expliqua Pedro. « Avez-vous entendu ?» Bogota. Son esprit n'est pas formé. Il ne possède encore que les rudiments de la parole. » Un bambin pinça la main de Núñez. « Bogota, » fit-il en se moquant. « Oui, Bogota. Une ville en comparaison de votre village. Je viens du vaste monde où les hommes ont des yeux et voient. Il s'appelle Bogota, » se disaient les aveugles. « Il a trébuché, » raconta Coréa. « Il a trébuché 2 fois en venant. Menez-le aux anciens. » Ils le poussèrent tout à coup vers une porte qui donnait accès dans une pièce aussi obscure qu'un four, bien qu'au fond brillât faiblement la lueur d'un feu. La foule entra derrière lui, obstruant presque entièrement la clarté du jour, et avant qu'il pût s'arrêter, il culbutait dans les jambes d'un homme assis. Son bras, qu'il lança devant lui pour se retenir, frappa quelqu'un en pleine figure. Il entendit une exclamation de colère et, pendant un instant, il dut se débattre contre une infinité de mains qui le saisissaient. Le combat était trop inégal. Il devina la situation et ne bougea plus. « Je suis tombé, » voulut-il expliquer. « Je n'y voyais goutte dans cette obscurité. » Le silence s'était fait, comme si tous ces êtres invisibles essayaient de comprendre le sens de ses paroles. Puis la voix de Coréa s'éleva. « Il est nouvellement formé. Il trébuche en marchant, et mêle à son discours des syllabes inintelligibles. D'autres aussi dirent à son propos des choses qu'il n'entendit et ne comprit qu'imparfaitement. « Puis-je me relever ?» demanda-t-il pendant un intervalle de silence. « Je ne lutterai plus contre vous. » Ils se consultèrent et le laissèrent se relever. La voix d'un vieillard se mit à le questionner, et Núñez bientôt exposa à ses anciens du pays des aveugles, assis dans les ténèbres, les merveilles du vaste monde d'où il avait chu, le ciel, les montagnes, la vue et bien d'autres. Ils ne voulurent rien croire ni rien admettre de ce qu'il raconta, et cette incrédulité obstinée dépassa les bornes des bizarreries auxquelles ils s'attendaient. Même, ils ne comprirent pas un bon nombre de mots dont il se servit. Depuis 14 générations,
ces gens vivaient aveugles et séparés de l'univers visible et voyant. Tous les termes concernant la vue étaient tombés en désuétude. Les souvenirs de l'extérieur s'étaient atténués et transformés en histoires enfantines, et les habitants avaient cessé de s'intéresser à ce qui existait en dehors des pentes rocheuses dominant leurs murs d'enceinte. Des aveugles de génie étaient nés parmi eux, qui avaient révoqué en doute les lambeaux de croyances et de traditions remontant à l'époque où leurs ancêtres voyaient, et qui avaient écarté tout cela comme autant de rêveries illusoires et l'avaient remplacé par de plus saines explications. Toute une part de leur imagination s'était évanouie avec la perte de leurs yeux, et ils s'étaient créés des imaginations nouvelles, adaptées à leurs oreilles et à leurs doigts plus sensibles. Lentement, Nunez se rendit compte qu'il avait eu tort d'espérer que son origine et ses dons lui vaudraient un respect particulier. Lorsque sa pauvre tentative de démonstration de la vue eut été repoussée comme la version confuse d'un être nouvellement formé, qui chercherait à décrire les merveilles de ses sensations incohérentes, il se résigna, quelque peu décontenancé, à écouter leur enseignement. Le plus vieux des aveugles entama un exposé de la vie, de la philosophie, de la religion. Il dit comment le monde, il entendait sa petite vallée, n'était d'abord qu'un creux vide dans les rochers, comment tour à tour il avait été peuplé d'objets inanimés auxquels manquait le sens du toucher, puis de lamas de diverses autres créatures qui ne possédaient qu'une intelligence élémentaire, ensuite d'hommes et enfin d'anges dont on percevait le chant et le bruit d'ailes, mais que personne ne pouvait toucher. Détail qui intrigua vivement Nunez jusqu'à ce qu'il eût pensé aux oiseaux. Le sage apprit à Nunez que le temps était partagé en deux divisions, la chaleur et le froid, ce qui est l'équivalent de la nuit et du jour pour les aveugles, et qu'il est bon de dormir pendant la chaleur et de travailler pendant le froid, de sorte que, s'il n'était pas survenu ainsi à l'improviste, toute la population, à cette heure-ci, goûterait un sommeil réparateur. Il démontra finalement que Nunez avait été spécialement créé pour acquérir la sagesse recueillie par les aïeux des habitants du pays et pour observer avec eux les règles établies. Malgré son incohérence mentale et ses pas chancelants, il devait avoir bon courage et faire de son mieux pour s'instruire promptement. À cette conclusion, le peuple demeuré sur le seuil fit entendre un murmure sympathique. Le vieillard alors déclara que la nuit était fort avancée, car les aveugles font de notre jour la nuit, et qu'il convenait que chacun s'en allât dormir. Il demanda à Nunez s'il savait dormir. Nunez répondit qu'il était initié à ce mystère, mais qu'auparavant il désirait un peu de nourriture. On lui apporta du lait de lama dans un bol et du pain très salé, et on le mena en un endroit solitaire où il put manger hors de la portée de leurs oreilles, et ensuite dormir jusqu'à ce que le froid, tombant le soir de la montagne, éveilla les habitants pour une nouvelle journée de travail. Mais Nunez ne dormit pas. Il s'assit à l'endroit où on l'avait laissé, reposant ses membres rompus de fatigue et retournant sans cesse dans son esprit les circonstances imprévues de son arrivée. De temps à autre, il se prenait à rire, amusé parfois et souvent indigné. « Esprit pas formé, pas encore affiné ses sens, » s'écria-t-il. Ils ne savent guère qu'ils ont insulté le roi et le dominateur que le ciel leur a envoyé. Il faut que je m'occupe de les mettre à la raison. Réfléchissons, réfléchissons. » Au coucher du soleil, il réfléchissait encore. Nunez était sensible à toutes les belles choses, et il pensa que les reflets sur les pentes neigeuses et sur les glaciers qui entouraient la vallée offraient le plus beau spectacle qu'il eût jamais contemplé. Ses yeux se portaient tour à tour sur ces inaccessibles splendeurs, sur ce village et ces champs irrigués qui s'enfonçaient rapidement dans le crépuscule. Soudain, une émotion intense s'empara de lui, et du fond de son cœur, il remercia le Créateur de lui avoir donné et conservé la vue. Il entendit une voix qui l'appelait de la lisière du village. « Yahweh, Bogota, venez ici !» À cet appel, il se leva en souriant. Une fois pour toutes, il allait montrer à ces gens quel service la vue rendait à l'homme. Il le chercherait sans le trouver. « Vous ne bougez pas, Bogota !» insista la voix. Riant sous cape,
Nunez fit en dehors du sentier deux pas sur la pointe des pieds. « Ne marchez pas sur l'herbe, Bogota, c'est défendu. » Nunez n'avait pas perçu le bruit qu'il avait fait. Il s'arrêta court, ahuri. Le propriétaire de la voie arrivait, en courant sur le pavé bigarré que Nunez regagnait aussitôt. « Me voilà, dit-il. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu quand je vous ai appelé ?» fit sévèrement l'aveugle. « Doit-on vous conduire comme un enfant ? Ne pouvez-vous entendre le sentier en marchant ?» Nunez se prit à rire. « Je puis le voir, » répondit-il. « Voir, voir, cela ne signifie rien, » déclara l'aveugle après un instant de réflexion. « Cessez cette folie et suivez le bruit de mes pas. » Nunez suivit, quelque peu ennuyé. « Mon temps viendra, » dit-il à haute voix. « Vous vous instruirez, » assura l'aveugle. « Il y a bien des choses à apprendre dans le monde. » « Personne ne vous a jamais dit que dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois ?» questionna Nunez. « Aveugle, qu'est-ce que cela ? » demanda son compagnon d'un ton insouciant et par-dessus son épaule.